OK, on continue notre étude sur l'introduction au Nouveau Testament. Donc, on avait dit qu'avant de commencer à étudier chacun des livres du Nouveau Testament, il y a trois choses nécessaires qu'il faut faire. Il faut voir comment l'Ancien Testament nous prépare à la personne de Jésus-Christ, parle de lui durant tout l'Ancien Testament pour nous parler de lui. Donc, c'est ce qu'on appelle, on avait commencé la semaine dernière, l'espérance messianique, comment ça s'est développé. La deuxième chose qu'on a besoin de voir aussi avant de commencer l'étude des livres, c'est la période qu'on appelle intertestamentaire, les 400 ans de silence. Alors, il va y avoir une leçon complète là-dessus, je serai à partir de Malachie, où le Seigneur a permis que pendant 400 ans, ça a été le silence divin, autrement dit, durant cette période-là, avant que le Seigneur Jésus vienne au monde en Israël. Et la troisième chose qu'on a besoin de comprendre aussi, si on veut mieux saisir les livres, c'est le cadre historique du Nouveau Testament. Autrement dit, quelles étaient les circonstances que le Seigneur a préparées pour l'arrivée de Jésus. Alors, c'était les Romains, tout ça, tout le côté social, le côté politique, le côté religieux. C'est une leçon qui nous prépare à comprendre les circonstances du peuple d'Israël au moment de l'arrivée du Messie. Alors, on avait vu la semaine dernière différents titres, la présentation du Messie. On les revise très rapidement, le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. On avait le serviteur souffrant, où on parle du serviteur souffrant dans Ésaïe 53. Et on avait aussi le nom qui était donné au Messie, le rejeton. Aussi le nom fils de l'homme. L'autre nom, fils de David. Autre nom, étoile et sceptre. Autre nom, le Shiloh, qu'on a dans Genèse 49, verset 10. On avait aussi l'époux royal et la pierre angulaire. On était rendus là la semaine dernière. Il y a un autre nom, on continue dans les noms qui étaient donnés au Messie dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Alors, en dehors des prophéties messianiques proprement dites, on trouve tout au long de la révélation de l'Ancien Testament une série de théophanies ou apparitions de Dieu. On admet que cet ange mystérieux était une personne semblable à l'Éternel, mais distincte. Le docteur C. Hodge résume ainsi la pensée réformée. L'ange qui apparut à Agar, à Abraham, à Moïse, à Josué, à Gédéon et à Manoach, nommé Yahvé, et adoré comme Adonai, qui veut dire Seigneur, exerçant la puissance divine et acceptant les hommages divins, présenté par les psalmistes et les prophètes comme étant le Fils de Dieu, le Conseiller, le Prince de la paix et le Dieu puissant, dont la naissance virginale est prédite et devant qui tout genou doit fléchir et que toute langue doit confesser dans les cieux et sur la terre, ne peut être que celui que nous connaissons et adorons aujourd'hui comme notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. On va regarder maintenant la personne du Messie. L'espérance messianique, en sa dernière phase, se concentre sur une personne précise. La figure idéale de ce Messie devient de plus en plus distincte tandis que la révélation progresse. Ces traits nous sont présentés sous trois aspects différents. Donc, l'aspect divin. Le Messie est le Seigneur, le Dieu puissant, Emmanuel, le Fils éternel, éternel roi, créateur immuable, dominateur souverain, Seigneur qui est monté. Donc, l'aspect divin. On a aussi, dans la même personne, on avait l'aspect humain. Notons que la révélation sur ce point débute par des généralités et converge peu à peu sur une personne précisément définie. Nulle part, on ne voit mieux dans l'Ancien Testament la progression très nette de la prophétie. D'abord, on en parle comme la postérité de la femme, dans Genèse chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » C'est la première allusion à la venue d'un libérateur. Elle est connue sous le nom de protévangile. Donc, l'aspect humain se manifeste aussi dans l'aspect que les Écritures parlent du Messie comme la postérité d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Aussi, on parle de la postérité d'Isaac. Dans Genèse 21, verset 12, ça dit, « C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » On parle aussi de la postérité de Jacob. Toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. On peut lire dans Genèse chapitre 28, verset 14. On en parle aussi comme la postérité de Judas. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. On a ça dans Genèse 49, verset 10. On a aussi la postérité d'Isaïe. Dans Isaïe, chapitre 11, verset 2. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » On parle aussi de la postérité de David. « Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » On a aussi le fait que les Écritures parlaient de Jésus comme venant au monde d'une naissance virginale de Marie. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Il y avait aussi le lieu de sa naissance qui avait été prophétisé dans les Saintes Écritures. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Il y avait un autre aspect. Donc, il y avait l'aspect divin, l'aspect humain. Il y avait aussi l'aspect rédempteur. Donc, les souffrances vicaires ou vicariales, dépendamment des... Il y en a qui disent vicaire, d'autres qui disent vicariale. Alors, cette personne humaine et divine est aussi représentée dans l'Ancien Testament comme souffrant pour son peuple. La signification profonde de la passion de cette victime innocente et royale apparaît seulement dans la vie et la mort de Jésus-Christ. Il faut l'accomplissement des prophéties messianiques sur la croix pour comprendre le fil écarlate que l'on retrouve dans toutes les Écritures de l'Ancienne Alliance. Donc, parmi les choses qui sont prédites sur l'aspect rédempteur et ses souffrances vicaires, on a l'idée que le Messie sera trahi. Alors, ça dit dans le psaume 41, verset 10, « Celui qui avait ma confiance et mangeait mon pain, lève son talon contre moi. » Bien sûr, on parle de Judas dans le contexte. Aussi, le fait qu'il garde un silence accusateur. Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, et n'a point ouvert la bouche. » Aussi l'idée qu'il serait cruellement frappé, Ésaïe 53, verset 5, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » aussi par le fait qu'il serait couronné d'épines. Alors son visage était défiguré, son aspect différait de celui des fils de l'homme, Isaïe 52, verset 14. Sa crucifixion avait été mentionnée, prophétisée. Psaume 22, verset 17. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et dans Zacharie 12, verset 10, ça dit, « Ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. » Autre chose qui était prophétisée, qu'il serait un objet de raillerie. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. » Et il le délivrera, puisqu'il l'aime. Psaume 22, versets 8 et 9. L'idée que ses vêtements seraient partagés. Psaume 22, verset 19. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Aussi, le fait qu'il crierait son angoisse. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le fait qu'ils crient « j'ai soif », ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Aussi, le fait qu'ils seraient maudits, parce qu'ils seraient crucifiés sur une croix, maudits sur le bois de la croix, ça dit dans Galates chapitre 3, verset 13, « maudit celui qui est pendu au bois ». Aussi, le fait qu'il est l'agneau de Dieu, l'alliance est scellée de son sang par l'offrande de son corps, une fois pour toutes, consomme tous les sacrifices de la loi. Ainsi, l'objet de l'espérance messianique, c'est la personne du Messie. Personne à la fois divine et humaine, réellement blessée pour nos iniquités sur la croix du calvaire. L'idéal séculaire a trouvé son accomplissement dans l'incarnation historique, la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus de Nazareth. Son retour en gloire sera le couronnement et la fin de toute espérance. Deux applications. La première, faisons tous nos efforts pour bien connaître tout ce qui concerne Christ dans l'Ancien Testament. Nous apprécierons ainsi beaucoup mieux tous les glorieux accomplissements des prophéties dans le Nouveau Testament. Demandons au Seigneur de nous donner la discipline d'avoir un plan de lecture systématique des Saintes Écritures et de le faire quotidiennement. Nous en serons richement récompensés et béni spirituellement. Deuxième application, Christ est la clé de compréhension de toute la Bible. Cherchons-le dans toutes ses pages. On voit une preuve de ça dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 25 à 32. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous. » Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin Et il nous expliquait les Écritures. Alors on termine en disant que notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni, loué, exalté et adoré éternellement. Amen.